Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Le nouveau gouvernement libanais a tenu aujourd'hui sa première réunion de travail. Il a été formé vendredi après 13 mois de vide institutionnel. Au sommet de l'État, la précédente équipe avait démissionné dans la foulée de l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. Les défis qui attendent le nouveau gouvernement sont donc immenses. Le Liban est aujourd'hui en plein effondrement économique. Le pays est à court de devises étrangères. Il est en défaut de paiement sur sa dette. La monnaie locale a perdu 90% de sa valeur face au dollar. Il s'agit selon la Banque mondiale, de l'une des pires crises économiques au monde depuis 1850. Une crise qui touche à tous les aspects de la vie quotidienne et qui paralyse le pays entre hausse des prix, coupure de courant, pénurie de carburant et de médicaments. 78% des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté selon l'ONU. Alors ce nouveau gouvernement sera-t-il capable de mener les réformes nécessaires et sauver le pays de la faillite? C'est le décryptage du jour, soyez les bienvenus. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons ce soir Aurélie Daher, enseignante-chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris, spécialiste du Liban. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
Et vous êtes également l'auteur de l'ouvrage « Le Hezbollah, mobilisation et pouvoir » paru aux éditions PUF. Alors la mise en place d'un gouvernement au Liban était, Aurélie Daher, une condition préalable pour que le pays puisse obtenir de l'aide internationale. Ça faisait, on le disait, 13 mois qu'on attendait ce gouvernement, que ça bloquait. D'abord, qu'est-ce qui fait que là, ça a marché, la situation s'est débloquée, un gouvernement a pu être mis en place au bout de 13 mois.
Oui, effectivement, félicitations, c'est un garçon. Enfin, un nouveau gouvernement au Liban. On l'attendait, donc, comme vous l'avez mentionné, depuis 13 mois. Ça a été laborieux. Depuis, donc, on était sur un modèle d'expédition des affaires courantes. Le vide constitutionnel était relatif. C'est pas comme si on avait une chaise vide. On avait quand même des ministres pour signer les quelques derniers papiers à signer. Mais c'est vrai que la relève était attendue à la fois par les Libanais et évidemment par la communauté internationale, puisque, effectivement, comme vous l'avez signalé, pour pouvoir mettre en place les réformes de sauvetage de l'économie libanaise, il va falloir aux nouvelles autorités négocier avec la communauté internationale, aussi des acteurs régionaux. Et ça, bon, ben pour ce faire, il fallait avoir un gouvernement en bonne et due forme. Alors, Monsieur Najib Mikati a relevé le défi là où son prédécesseur
le premier ministre qui était chargé donc de constituer cette équipe gouvernementale
qui a été nommé donc il y a quelques semaines en remplacement de Monsieur Saad Hariri qui lui a essayé pendant plusieurs mois, mais a échoué. J'ai envie de dire, si Monsieur Mikati a réussi là où Monsieur Hariri a échoué, c'est lié évidemment à un certain nombre de facteurs. C'est lié aussi à la personnalité de Monsieur Mikati, qui, alors qu'on soit d'accord ou non avec sa politique, avec son profil, etc., a quand même désormais derrière lui un parcours de capitaine de bateau plutôt habile lorsqu'il y a des grosses tempêtes. C'est quelqu'un qui a déjà été Premier ministre, notamment en 2005, juste après la fin de la tutelle syrienne, 15 ans de tutelle syrienne sur le Liban. Et quand les Syriens sont partis, justement, on a à l'époque beaucoup parlé d'un risque de déstabilisation politique au Liban, peut-être d'un retour à la guerre civile. Et finalement, il a été nommé et il a réussi à mener cette transition, en l'occurrence les premières élections législatives, sans fracas. Et cela, malgré le fait que idéologiquement, par exemple, il était plutôt considéré comme proche des Syriens. Il a en l'occurrence une amitié personnelle de longue date avec le président Bachar el-Assad. Et finalement, il n'a pas entravé le déroulement du renouveau institutionnel et il a laissé les anti-syriens finalement savourer leur victoire et prendre la main après lui. Il n'a pas cherché à garder le pouvoir après. De la même manière, en 2011, il reprend le flambeau à un moment où, comme vous le savez, démarre la guerre civile en Syrie. À l'époque, tout le monde parie sur le fait que l'instabilité syrienne va déborder sur le petit Liban, comme trop souvent d'ailleurs, et la frontière, en l'occurrence, entre le Liban et la Syrie étant tellement poreuse, et les groupes radicaux, grosso modo, passant d'un côté à l'autre de la frontière sans trop de soucis, donc on a craint le pire. Monsieur Mikati a finalement réussi, encore une fois, à maintenir tout à peu près sous contrôle, et rien n'a réellement dégénéré.
Alors justement, je voudrais qu'on écoute la réaction de deux Libanais lorsque justement Najib Mikati, vendredi, a dévoilé sa nouvelle équipe gouvernementale.
C'est vrai que c'est une bonne nouvelle et ça fait un an qu'on attend la formation de ce gouvernement. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont revenues au pouvoir, les mêmes visages, les mêmes noms. Donc on espère que ça va changer, mais on n'a pas trop d'espoir.
Ce sont toujours les mêmes personnes au pouvoir. La corruption est toujours là. Donc je vois vraiment pas comment ils peuvent changer les choses. L'électricité n'est pas là depuis de nombreuses années. Tout est cher, on trouve plus rien dans les supermarchés. Je pense pas que cette équipe va faire quelque chose. C'est impossible. Trop et trop profond.
Voilà, Aurélie Daher, ce scepticisme, il est quand même partagé par une large partie de la population libanaise, avec cette idée que finalement, on reprend les mêmes et on recommence. Et sur la figure de Najib Mikati, est-ce qu'il n'est pas quand même un peu une incarnation du vieux système politique libanais, gangréné par les affaires de corruption, le clientélisme ?
Oui, très certainement. Il a, je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, ça fait déjà un moment qu'il est dans le paysage politique. Et évidemment, toute une équipe autour de lui est elle aussi là dans le paysage politique. Mais en même temps, je vais me faire un peu l'avocate du diable. C'est-à-dire qu'il y a quand même un paradoxe chez donc les opposants à l'ancienne classe et qui est qu'on attend le changement de la part de ceux qui ne le veulent pas. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire, il faut être un petit peu cohérent. Est-ce que ce n'est pas à l'opposition aussi de proposer justement de faire émerger de nouvelles figures, de nouveaux technocrates, de nouveaux experts? Or, le fait est que ça fait maintenant 2 ans qu'a démarré cette révolution, ce qui a été appelé la révolution du cèdre, en octobre 2019, et que le slogan « colonial et colon », c'est-à-dire « tous, absolument tous doivent partir », on se rend compte au bout de 2 ans que finalement cette opposition a encore eu beaucoup de mal à mettre en place des options alternatives, une classe politique alternative, même des partis politiques capables de mobiliser, notamment au niveau national, et puis, à partir de là, engager le fer sur la scène du débat politique avec l'ancienne classe, trouver les bons leviers pour les faire partir.
Aujourd'hui, quels sont les rapports de force au sein de ce nouveau gouvernement ? On parle d'un gouvernement extrêmement équilibré. Est-ce que ça vous paraît de bon augure, justement, pour une sortie de crise dans les prochains mois ou prochaines années?
Alors, M. Mikati a fait le choix, évidemment, avec la bénédiction des autres acteurs libanais déjà en place, de, effectivement, monter un cabinet qui serait composé à 50-50 de ministres chrétiens et musulmans. Il y a autant de chrétiens que de musulmans. Il ne faut pas oublier que le système politique libanais est un peu particulier et que pour comprendre ce qui se passe au Liban, il faut peut-être raisonner différemment de ce qu'on peut appliquer dans les raisonnements sur un système français ou un système américain. Au Liban, la question des équilibres communautaires, notamment au niveau de la représentation au sein des institutions étatiques, que ce soit au Parlement, au gouvernement, à la tête de l'armée, enfin à la tête de toutes les hautes administrations, quelque chose d'absolument fondamental, il faut absolument que toutes les communautés, évidemment, principales, il y en a quand même 18 recensées officiellement au ministère de l'Intérieur. Alors, si on veut représenter 18, ça va être un peu compliqué. Mais disons que les principales, celles qui représentent l'essentiel de la population libanaise, doivent être représentées de manière équitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on donne un poste, par exemple, ministériel à une personnalité chiite, il faut faire attention à garantir un poste ministériel du même calibre pour les sunnites, idem pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que du moment où vous semblez privilégier une communauté plutôt qu'une autre, vous allez créer des frustrations, notamment des frustrations au niveau aussi de la base, au niveau de la société elle-même. Tout de suite va se développer un sentiment d'exclusion et là, évidemment, c'est le risque au retour à la violence politique, voire à la guerre civile. Ou en tout cas, le discours est monté comme ça. Donc, le principal challenge, c'est faire en sorte que chacun a bien reçu la même portion que ceux de la communauté d'à côté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit sur le système politique libanais, c'est que entrer en politique, faire de la politique au Liban, n'a pas pour souci principal de légiférer, de débattre de politique publique, etc. Au-delà donc de cette représentation communautaire, on est quand même face à un système qui est solidement ancré dans le clientélisme, c'est-à-dire qu'un ministre et un député ont pour rôle principal de gérer des enveloppes de financement étatique et de les redistribuer alors soit à une clientèle, des entrepreneurs qui seraient montés en réseau autour de cette personnalité, soit même donc aux citoyens lambda. En l'occurrence, par exemple, quand on vote pour un député libanais, ce qu'on attend en retour, c'est que, bon, je vote pour toi, mais en échange, une fois que tu es élu, tu vas être gentil, tu vas alors soit trouver un job pour mon fils, soit tu vas trouver une bourse pour ma fille, etc., etc.
Ça veut dire, Aurélie Daher, que finalement, la sortie de la crise économique, elle va pas se jouer tellement entre les différents membres du gouvernement, mais finalement, on a une équipe gouvernementale qui va jouer de ses relations avec l'extérieur, avec les puissances étrangères, régionales, internationales, pour essayer de trouver des leviers de sortie de crise.
Exactement. En fait, l'identité individuelle des ministres importe peu, leur parcours personnel, et j'ai même presque envie de dire leur intégrité, malheureusement, ça va pas être fondamental, en fait, dans la manière dont vont se dérouler les choses. Aujourd'hui, à travers la formation de ce gouvernement, le Liban, en tout cas la classe politique en place, envoie un signal fort à la communauté internationale qui dit « bon ben ça y est, on est prêt à discuter, on est prêt à négocier, on est prêt à travailler ». Et évidemment, ce ne sont pas les ministres individuellement qui vont prendre les décisions, c'est ça, encore une fois, les leaders communautaires qui tirent les ficelles en backstage et qui vont effectivement décider de ce qui sera tolérable, acceptable ou pas acceptable avec la communauté internationale et les puissances régionales.
Alors justement, dans ses premières déclarations, le Premier ministre Najib Mikati s'est engagé à solliciter l'aide des pays arabes. Il fait allusion à qui exactement comme pays ? Parce qu'on a vu ces dernières semaines beaucoup de pays se manifester en proposant une aide très généreuse au Liban, aide probablement intéressée. À qui est-ce qu'il pense quand il dit ça, Najib Mikati ?
La principale priorité de toutes les priorités, évidemment, aujourd'hui, c'est de remettre à flot la monnaie nationale, la livre libanaise. Vous le mentionnez tout à l'heure. La livre libanaise, elle est passée de 1500 livres pour un dollar il y a deux ans, en octobre 2019, à plus de 20 000 livres il y a encore quelques mois. Donc la chute a été vertigineuse, ça veut dire grosso modo que tout ce que les Libanais touchent en livres libanaises, c'est de la monnaie de singe, le pouvoir d'achat a complètement dégringolé. Or, pour relancer ce pouvoir d'achat, pour remettre la livre libanaise en selle, il faut que les banques, le système bancaire réussisse à se reconstituer au plus vite une réserve en devises fortes, en dollars et en euros, très clairement, mais de manière conséquente. C'est-à-dire, il faut injecter dans un système, certes corrompu, mais on n'a pas le choix, il faut injecter des dizaines de milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars. Or, aujourd'hui, à part les puissances du Golfe, pour ne pas les nommer, Arabie Saoudite, Émirats, etc., personne n'a à la fois les moyens et potentiellement la volonté de mettre de telles sommes, de faire de tels investissements dans le système libanais. Et on le sait, les relations entre le Liban et l'Arabie Saoudite sont un peu compliquées depuis 2017 et le fameux soap opera, le grand feuilleton qu'on avait eu à l'époque lorsque l'Arabie Saoudite avait enlevé le Premier ministre Saad Hariri, il l'avait forcé à la démission. Donc les relations sont un peu compliquées et on sent bien que Najib Mikati a très envie de reprendre langue de manière plus apaisée avec Riyad, de manière idéalement à ramener les Syriens, les Saoudiens dans de meilleures dispositions vis-à-vis du système bancaire libanais.
Et en même temps, on a aussi le Hezbollah qui, on a l'impression, essaie de repositionner l'Iran. On a vu depuis des semaines, on a eu presque ce sentiment que le Hezbollah essayait de se renforcer ou en tout cas de se poser en sauveur avec son allié iranien. Une illustration avec ce qu'on va écouter tout de suite, c'était le 19 août, c'est Hassan Nasrallah qui s'exprime, c'est le chef du Hezbollah, l'organisation chiite. Et il annonce à ce moment-là, on est le 19 août, l'envoi d'un navire iranien vers le Liban, un navire qui transporte du carburant en violation des sanctions américaines.
Concernant le navire venant d'Iran qui naviguera dans les prochaines heures, je dis aux Américains et aux Israéliens qu'il est considéré comme territoire libanais.
Aurélie Daher, quel était l'objectif du Hezbollah en proposant cette aide et en s'affichant un peu comme sauveur de ces pénuries d'essence et de...
Le Hezbollah actuellement, il fait l'objet de critiques multiples au Liban et il fait aussi l'objet de critiques au sein de sa communauté qui a été, en tout cas pendant de longues années, le Hezbollah ça existe maintenant depuis bientôt 30 ans, et pendant de longues années, grosso modo, il était assuré d'un soutien indéfectible au sein de sa communauté. Aujourd'hui, il y a de la grogne, évidemment, les gens ont faim, les gens ne comprennent pas pourquoi le Hezbollah justement n'intervient pas ou en tout cas n'est pas intervenu davantage ou de manière manière un peu plus ferme pour accélérer la formation du gouvernement et donc accélérer l'espoir d'un solutionnement des problèmes économiques. Donc il y a de la grogne, à la fois au niveau de la société libanaise, plus particulièrement au niveau de la communauté chiite, et je pense, parce qu'après je suis pas dans la tête du secrétaire général du Hezbollah, mais je pense qu'a priori, ça ferait sens de se dire que bon, là, ils ont eu l'opportunité de faire un double coup. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait venir de l'essence, donc on soulage, n'est-ce pas, la situation économique extrêmement compliquée de la population libanaise, et plus particulièrement évidemment de la communauté. Et puis, bon, on réussit un coup médiatique au niveau national.
Le fait que le Liban puisse éventuellement s'approvisionner auprès de l'Iran, c'est un scénario qui vous semble possible ou pas du tout ?
Il n'est pas impossible, surtout que si on décrypte à peu près raisonnablement, par exemple, les réactions américaines ou françaises à l'annonce de Nasrallah, les Américains auraient très bien pu menacer le Liban de sanctions supplémentaires, puisque comme vous le savez, pour les Américains, grosso modo, le droit international, ou en tout cas... il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prévues par les Américains contre les entreprises et les pays qui travailleraient avec l'Iran. On comprend bien par ailleurs que le Liban est dans une telle détresse économique qu'imposer des sanctions à un pays qui va chercher de l'essence et du mazout auprès du seul pays qui veut bien lui en envoyer gratuitement, ce serait humainement invendable auprès des opinions publiques américaines, françaises et internationales. Donc je pense que il y a eu certes une position de circonstance, à savoir, bon, on est contre, c'est pas bien, mais pour autant, je doute qu'il y ait par derrière des vrais blocages en pratique si vraiment le processus doit aller jusqu'au bout.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans la foulée de cette aide proposée par le Hezbollah et l'Iran, les États-Unis ont eux aussi essayé de se mettre en avant en affirmant qu'ils discutaient avec l'Égypte et la Jordanie pour trouver justement des solutions aux problèmes énergétiques au Liban. Ils ont visiblement mis sur pied un projet d'acheminement du gaz égyptien vers le Liban qui passerait par la Jordanie et la Syrie. Quand on voit ça, est-ce qu'on ne peut pas se dire légitimement qu'il y a un petit peu un problème d'instrumentalisation aujourd'hui de la crise économique au Liban par des puissances étrangères qui voudraient en profiter pour se renforcer sur la scène internationale? Et est-ce que ça ne risque pas de peser sur le gouvernement libanais?
C'est compliqué parce que je suis pas persuadée que ici l'enjeu ce soit par exemple d'instrumentaliser le Liban pour le Liban. C'est horrible pour mon pays paternel ce que je vais dire, mais le Liban a très peu à offrir à la communauté internationale. Mais ce que je veux dire, le Liban n'a pas une place stratégique extraordinaire, pas du pétrole, etc. Donc j'ai envie de dire la communauté internationale laisserait mourir le Liban, ce serait cynique, mais je veux dire d'un point de vue purement stratégique, éventuellement ça ne ferait pas contresens. En revanche, bien sûr, il y a des enjeux qui, là, se situent entre les Américains et les Iraniens, entre les puissances régionales, les Israéliens, les Saoudiens, etc. Oui. Instrumentaliser le Liban, ça me semble peut-être un peu excessif.
Une dernière question, Aurélie Daher, avant de refermer ce décryptage. Il y a des élections qui se profilent au Liban en mai 2022, des législatives. Le Premier ministre Najib Mikati a assuré qu'elles auraient lieu dans les temps. Pour vous, est-ce que les conditions, la situation sociale, la situation économique permet au pays d'organiser des élections ?
Oui, je pense que le contexte le permet tout à fait. La vraie question, c'est est-ce que cette fois-ci, les Libanais vont vraiment déposer dans l'urne de nouveaux noms ? Puisque, comme on le sait, la grogne, elle n'a pas commencé en 2019. On avait déjà eu la grande crise des déchets en 2015, qui avait généré de grosses protestations. En 2018, idem. Pourtant, aux élections législatives en 2018, on a, malgré la grogne, on a repris les mêmes et on a recommencé, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Donc là, est-ce que les Libanais vont vraiment changer le paysage politique ? La balle est dans leur camp.
Eh ben, on va suivre ça sur RFI. Merci beaucoup, Aurélie Daher, d'avoir été en direct avec nous dans Décryptage. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris, spécialiste du Liban. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Hezbollah, mobilisation et pouvoir, aux éditions PUF. Dans quelques secondes, vous retrouvez Romain Ozoui à la présentation du débat du jour.
Priorité santé.
Caroline Paré.